Les années-lumière, édition du 22 mars 2009. On a vu fonctionner la conscience et c'est pratiquement tout le cerveau qui est alors au travail. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, cette émission, je la commence en parlant biologie de la conscience, puis nous changeons de registre pour parler caribou forestier, avec vous, Hugues de Roussan.
Oui, Yannick, le caribou forestier qui est un animal timide qui recule quand l'homme avance, mais qui a besoin de lui pour protéger son habitat naturel.
Nous aurons ensuite un courrier, une question qui nous vient, mais oui, de la France. Elle vient de très loin, donc. Puis la chronique des années-lumière. Cette semaine, l'astrophysicien Laurent Drissen nous parle d'un fabuleux et très intrigant sursaut gamma. C'est la plus puissante explosion jamais observée dans l'univers au complet. Deuxième heure, Sophie-André Blondin, vous avez connu une grosse semaine en paléontologie.
Et de belles nouveautés qui vont du gros monstre cambrien trouvé en Colombie-Britannique au petit prédateur à plumes de l'Alberta, jusque dans une mare de boue en Chine qui a emprisonné un troupeau d'adolescents dinosaures.
Quelle vie! Après le petit journal de la science, Chantal Srivastava, vous allez nous parler technologie de l'environnement.
Je vous amènerai, Yannick, au Salon Americana 2009, où toutes ces technologies sont mises en valeur. Reste à voir dans quelle mesure elles peuvent vraiment nous aider à régler tous nos problèmes de pollution domestique et autres.
Et pour terminer, je recevrai l'auteur de la semaine. Il s'appelle Gérard Lambert. Il a publié un livre qui s'appelle « Vérole, cancer et compagnie » aux éditions du Seuil. Mais pour commencer, la conscience. La question passionne depuis toujours les philosophes, les théologiens, les psychologues, les écrivains, et elle intéresse aussi énormément les spécialistes des neurosciences. Et cette question, c'est celle de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Comment est-elle produite, je mets le mot entre guillemets, par ce noble organe qu'est le cerveau? Ce sont des questions difficiles auxquelles une équipe de chercheurs français apporte des réponses, des débuts de réponses, et cette équipe vient de publier un article important sur ce qu'elle appelle l'accès à la conscience. Le docteur Raphaël Gaillard est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Il fait aussi partie de l'unité de neuro-imagerie cognitive de l'INSERM. Il est le premier auteur de cet article. Il est au bout du fil. Bonjour, docteur Gaillard.
Bonjour.
Alors, j'ai dit des réponses à ces grandes questions sur la biologie de la conscience. Je n'exagère pas.
Un début de réponse qui nous amène à des expériences assez nouvelles, qui renouvellent un peu ce sujet. Pour situer un petit peu les choses, vous l'avez bien dit, la conscience, c'est l'objet de beaucoup de réflexions philosophiques, de réflexions chez nos collègues psychologues également, mais c'est aussi devenu un objet scientifique pour les neuroscientifiques, en posant la question suivante, assez simplement, qu'est-ce qui dans le cerveau pourrait caractériser la conscience? Qu'est-ce qui sous-tend cette propriété bien particulière du fonctionnement psychique tel qu'on peut l'approcher, l'étudier chez nos congénères?
Et j'imagine que comme spécialiste de neurosciences, spécialiste de la neuroimagerie, vous allez essayer de voir dans le cerveau la conscience à l'œuvre, c'est ça?
Alors le mot de neuroimagerie est très important parce qu'effectivement, ce qui nous permet cette approche, ce qui permet de poser cette question un peu trop ambitieuse de la conscience, c'est les outils de neuroimagerie, c'est-à-dire ces outils qui nous permettent d'observer le fonctionnement du cerveau pendant que l'on pense, pendant que l'on fait telle ou telle action, ou bien, et c'est la question là, pendant que l'on accède à la conscience concernant un stimulus, en l'occurrence un mot.
Oui, accéder à la conscience, l'accès à la conscience, ça veut dire quoi en un mot ?
Alors l'accès à la conscience, on le définit le plus sommairement possible, et ça consiste en fait à pouvoir rapporter ce que l'on vit à un moment donné, c'est-à-dire pouvoir partager avec autrui ce que l'on est en train de faire, l'idée, la représentation qui est en tête à ce moment-là.
Alors on va dire un mot sur le protocole de des travaux qui vous ont amené à la publication de cet article. Vous aviez des patients épileptiques dans le cerveau desquels, pour des raisons de diagnostic médical, on implante des électrodes. Et donc, vous avez, au fond, profité de cette situation-là pour aller voir ce qui se passait dans leur cerveau. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est exactement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques de neuroimagerie reposent sur deux types de mesures. Il y a les mesures de type imagerie cérébrale fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle par exemple,
oui,
qui permettent d'observer l'activation du cerveau à un endroit précis. Mais c'est des techniques qui n'ont pas une définition temporelle très fine. En gros, avec l'IRM fonctionnelle, la définition temporelle est de l'ordre d'une seconde.
C'est très long.
Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe en deçà d'une seconde. Mmh. Or, une seconde, à l'échelle du fonctionnement psychique, on se doute bien que c'est une petite éternité.
Oui.
Et puis, il y a d'autres types de mesures qui sont des mesures plutôt électrophysiologiques qui, elles, ont la précision temporelle jusqu'à la milliseconde, mais qui perdent la précision spatiale parce que c'est des mesures qui sont faites en surface, par exemple sur le modèle d'un électroencéphalogramme.
Mmh. De l'extérieur du cerveau, au fond. Mmh.
Voilà, en perdant l'information spatiale. Et là, en fait, ce dont on parle, c'est deux patients pour lesquels on a accès aux deux informations, et spatiales et temporelles, du fait de l'existence d'électrodes intracérébrales. Mmh. Alors ces électrodes intracérébrales, évidemment, elles sont mises en place à visée médicale. C'est un objectif médical.
C'était pas pour la recherche, bien sûr, non ?
C'est bien sûr pas pour la recherche. C'est des patients qui souffrent d'épilepsie pharmacorésistante et ne répondant pas au traitement médicamenteux, et chez lesquels on implante une série d'électrodes qui est maintenue en place pendant une à deux semaines avec un enregistrement continu. Le patient est hospitalisé et le tracé cérébral est enregistré en continu avec l'idée de repérer dans son cerveau les zones qui sont à l'origine de ces crises.
Les foyers de l'épilepsie, ouais, c'est ça. Mmh.
Et par conséquent, de guider un geste chirurgical qui viendrait resséquer, c'est-à-dire retirer la zone à l'origine
exactement
des crises d'épilepsie. Donc ça, c'est le contexte médical. Et il faut redire que, évidemment, cette implantation est guidée par un objectif qui est uniquement médical.
C'est ça. Et vous, vous glissez dans cette fenêtre-là de quelques jours où les patients ont leurs électrodes et vous faites donc cette expérience en leur présentant des stimuli visuels, c'est bien ça, des mots.
Tout à fait. On profite de cette période pour leur montrer un certain nombre de stimuli. Ça veut dire qu'on analyse le tracé qui, de toute façon, comme je l'ai dit, est enregistré en permanence. Et simultanément, on leur présente des stimuli. Alors les stimuli en question, c'est des mots. C'est des mots qui sont présentés dans deux conditions différentes. La première, c'est la perception consciente, normale, d'un mot, qui est présenté assez brièvement, mais dans des conditions telles que le sujet a bien conscience de voir un mot et il peut dire « j'ai vu tel mot »,
d'accord,
il peut classer ce mot, et en l'occurrence, les sujets devaient classer ces mots comme étant émotionnels ou neutres. Et puis, on peut aussi se situer dans des conditions expérimentales telles que le sujet n'a pas conscience d'avoir vu un mot. Et pour ça, le principe est assez simple. On diminue le temps de présentation de ce mot,
oui,
qui n'est présenté que pour quelques dizaines de millisecondes, en l'occurrence 30 millisecondes, et on le fait précéder et suivre de chaînes de caractères abstraites, qui n'ont pas de sens, qui viennent en quelque sorte masquer le mot.
Oui.
Dans cette condition de présentation subliminale masquée, le sujet est dans le patient est dans une situation un peu étonnante parce que il voit quelque chose bouger sur l'écran en face de lui, mais il ne sait pas qu'il s'agit d'un mot. Et lui-même dit « je n'ai pas vu de mot ». Si on lui demande quel était ce mot, il n'est pas capable de le rapporter. C'était notre critère pour la conscience. Si on lui demande de reconnaître ce mot ensuite, il n'est pas capable de le reconnaître. Et si enfin on lui demande de catégoriser ces mots, si on lui demande de faire cet effort, qui est un peu surprenant pour lui, hein,
oui.
Dit, je n'ai rien vu, on lui dit, mais écoutez à l'intuition, essayez à l'intuition, eh bien, manifestement, il n'y parvient pas, puisque ses performances sont au niveau du hasard. C'est comme
d'accord.
S'il jouait à pile ou face.
Et donc, ce que vous avez montré, ce que vous avez vu avec ces expériences-là, c'est que la conscience, bon, on parle de perception visuelle. Normalement, ce sont les aires visuelles qui sont en arrière du cerveau qui seraient stimulées, mais il n'y a pas que ça dans la conscience, justement, c'est beaucoup plus large.
Tout à fait. Une tentation qui est un peu illusoire, mais qui existe bien hein, dans la littérature scientifique, une tentation, ce serait de considérer qu'il y a dans le cerveau une région spécifique qui sous-tend la conscience.
Un centre de la conscience.
Voilà, une sorte de siège électif de la conscience. On pourrait poser la question en ces termes, comme on peut poser cette question sur les parties du cerveau qui permettent de reconnaître un visage, de lire un mot, d'entendre une certaine musique. Et on pourrait aller jusqu'à cette question, est-ce que je vais repérer dans le cerveau le siège électif de la conscience, c'est-à-dire une zone bien circonscrite qui sous-tend la conscience. C'était pas notre approche. Notre approche consistait plus à prédire que c'est pas tant un endroit précis qui fera la différence, c'est la dynamique des activations cérébrales. Et alors c'est effectivement ce qu'on a observé. Premièrement, dans la perception non consciente, à peu près toutes les régions du cerveau peuvent être activées. Mais elles le sont de façon très transitoire, de façon évanescente. C'est-à-dire que c'est une sorte de série d'activations qui peut gagner l'ensemble des régions cérébrales, corticales, mais qui ne durent pas. Et quand on prend conscience d'un mot, apparaît un deuxième volet d'activité cérébrale qui succède à cette montée initiale de l'information. Ce deuxième volet, il est caractérisé par une activité cérébrale soutenue qui se situe au-delà de 300 millisecondes. Et pendant cette activité cérébrale soutenue, le fait que les différentes régions cérébrales qui sont activées par la tâche, ici lire un mot et le catégoriser suivant sa valence émotionnelle, se mettre à osciller de façon coordonnée. C'est-à-dire ce qu'on observe, c'est que ces différentes régions cérébrales se mettent à collaborer. Au lieu de fonctionner de façon individuelle, en parallèle, elles fonctionnent suivant un ordre établi, une orchestration particulière. Je ne sais pas si on résume toutes les propriétés de la conscience avec cette question, parce qu'évidemment, ça pose beaucoup de questions sur ce que permet la conscience. Mais ce que l'on peut dire, en tout cas, à l'aune d'un questionnement scientifique, qui a toujours quelque chose, évidemment, d'un peu réducteur, c'est que entre la situation où l'on perçoit inconsciemment un mot et la situation où l'on perçoit consciemment ce mot, se produit une activation soutenue de l'ensemble des régions cérébrales impliquées dans la lecture avec une mise en rapport, une coordination de ces différentes structures cérébrales. C'est comme si chaque partie du cerveau qui est appelée à intervenir dans la lecture de ce mot rentrait dans un espace de travail commun, un espace qui correspondrait à ce moment-là à l'accès à la conscience.
Docteur Raphaël Gaillard, je vous remercie beaucoup de ces explications. Je rappelle, vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, spécialiste de neuroimagerie cognitive aussi, et que vous avez donc publié cet article sur la biologie de la conscience, le fonctionnement de la conscience. Merci beaucoup, docteur Gaillard.
Merci à vous.
Ici Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet ou en syntonisant notre flux MP3 en direct le dimanche. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les années-lumière avec Yannick Villedieu.
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec a dans ses tiroirs, depuis 3 ans, un plan de redressement du caribou forestier. Le caribou forestier qui a été, il y a 4 ans, en mars 2005, désigné espèce vulnérable par le gouvernement du Québec. Le caribou forestier a vu son habitat naturel diminuer de moitié depuis 50 ans. Il ne cesse de reculer devant l'avancée de l'homme. Au Québec, on le retrouve dans les forêts boréales, au-dessus du 50e parallèle. On le surnomme le fantôme gris. Et il est presque devenu synonyme de forêt boréale, un symbole, Hugues de Roussan, qui a besoin d'aide.
Oui, qui a besoin d'aide, Yannick. Il faut dire que le caribou forestier fait partie de la sous-espèce du caribou des bois, qu'on retrouvait autrefois d'un océan à l'autre, jusque dans la partie sud du Québec et même au-delà de la frontière américaine. Aujourd'hui, le caribou des bois a complètement disparu de la côte du Pacifique et de la côte atlantique et on ne le retrouve plus que dans la forêt boréale entre le Labrador et le Yukon. Au Québec, le caribou des bois s'est adapté à son environnement et forme maintenant 3 groupes distinctifs qu'on appelle des écotypes.
Trois écotypes, c'est quoi ça?
3 écotypes. Oui. D'abord, il y a le caribou toundrique qu'on retrouve dans le nord du Québec et au Labrador. Il compte 1 million d'individus. Ces caribous vivent en harde, il y en a 2 grandes, et ce sont des caribous migratoires qui parcourent jusqu'à 2000 km par année. Mmh. Il y a aussi le caribou montagnard qui vit en Gaspésie. Ce sont les derniers des caribous des bois qu'on retrouvait jadis dans les provinces de l'Atlantique. Finalement, il y a le caribou forestier, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'est un sédentaire. Il vit en petits groupes dans la forêt boréale, mais il a besoin de beaucoup d'espace. On estime à 1 à 3 individus et demi par 100 km carrés. Mmh. On dit également que c'est un bon indicateur de la santé de la forêt. On dit que lorsqu'il y a caribou, la forêt est en santé. Alors, on va écouter Patrick Nadeau, qui est biologiste et responsable foresterie à la Société pour la nature et pour les parcs, section Québec.
Le caribou forestier a une particularité dans le sens que c'est une espèce qui est très exigeante par rapport à son habitat. Donc, on dit qu'il habite la forêt boréale, mais il habite pas n'importe où en forêt boréale. Donc, des exigences, par exemple, en termes de forêts matures, donc des vieilles forêts, aussi des exigences par rapport à des forêts qui sont intactes. Donc, le caribou forestier va rechercher des endroits qui sont très peu fréquentés par les humains ou qui ont été très peu fragmentés, donc qui ont peu de routes, peu d'infrastructures, par exemple, des bouts de villégiature. C'est une espèce qu'on dit qu'il est un peu timide puisqu'elle évite la fragmentation et la présence des humains.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que l'être humain avance, le caribou recule?
Effectivement, contrairement par exemple à l'orignal ou au chevreuil qu'on voit fréquemment dans les zones qui ont été perturbées, par exemple suite à des coupes forestières, le caribou forestier est largement incompatible avec ces activités-là. Donc, pour effectivement protéger le caribou forestier, ce que ça prend, c'est des grandes aires qu'on va protéger et desquelles on va exclure ce genre de fragmentation. Donc, on va limiter le nombre de routes, on va limiter, par exemple, les constructions, les interventions humaines qui font en sorte que son habitat est fragmenté et morcelé en petits morceaux. Donc, puisque c'est une espèce qui a besoin d'un grand domaine vital, aussitôt qu'on fragmente et qu'on morcelle cet habitat, ça devient insuffisant et le caribou est de plus en plus repoussé vers le nord. Donc, le caribou forestier, à l'heure actuelle, c'est une espèce qui est quand même présente à la grandeur du Canada, dans la forêt boréale, mais en ce moment, au Québec, l'espèce a été repoussée majoritairement au nord du 50e parallèle. Donc, le 50e parallèle, c'est approximativement Chibougamau, cette île. Donc, aujourd'hui, on retrouve très peu de ces caribous-là au sud de ce parallèle-là et on a l'impression que le déclin se continue et que le déplacement continue de s'effectuer vers le nord.
Pourquoi il a besoin de vieilles forêts? Parce que sa nourriture est là? Parce qu'il a besoin d'un environnement spécial pour se camoufler? C'est quoi la raison de la vieille forêt?
Bien, en fait, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que dans la forêt ancienne, dans la vieille forêt, il va retrouver son aliment principal qui est le lichen. Mais également, une fonction principale de ces anciennes forêts-là, c'est de le cacher de ses prédateurs. Donc, les prédateurs principaux du caribou forestier sont le loup et l'ours noir. Et lorsque le caribou parvient à se réfugier dans ces vieilles forêts, il devient beaucoup plus difficile pour les prédateurs de l'attraper. Donc, vraiment, c'est essentiellement, il se sort des vieilles forêts pour se réfugier de ses prédateurs.
Est-ce qu'on peut évaluer la population du caribou forestier? Parce qu'on le sait à peu près, je crois, pour le caribou de la Gaspésie. On sait qu'ils sont des centaines de milliers pour le caribou de la toundra. Mais pour le caribou forestier, qu'est-ce qu'on sait?
Je vous dirais qu'il n'y a personne qui a la réponse exacte à ça. Puis malheureusement, c'est une des faiblesses qu'on a, c'est que la science est insuffisante en ce moment. Nos meilleurs estimés proviennent d'estimés qu'on a fait à partir d'études très localisées. Donc, on prend une densité qu'on connaît dans une région très spécifique Arctique. Et ensuite, on fait un peu une extrapolation, donc c'est-à-dire si le caribou était présent partout au Québec dans son aire de répartition à ces densités-là, on arriverait par exemple à 6 000 à 12 000 individus. Sauf qu'on sait que le caribou n'est pas présent à la grandeur de son habitat, donc une estimation plus conservatrice serait d'environ 2 000 ou 3 000 bêtes.
C'était Patrick Nadeau de la Société pour la nature et pour les parcs section Québec.
Il existe, Yannick, deux autres petits groupes au sud du 49e parallèle. D'abord dans la région de Charlevoix, où il a été réintroduit au début des années 70. On compte environ 75 individus. Et il y a un autre groupe près de Val-d'Or, et là, on compte une trentaine de bêtes.
Oui, c'est pas beaucoup. Un comité, donc, qui comprend une vingtaine de personnes, a été formé pour établir un plan de redressement du caribou forestier. Et ce plan pour protéger l'habitat de cet animal a été déposé en 2006 déjà. Ouais.
Oui, il est donc un plan qui est prêt depuis 3 ans maintenant, mais il n'a jamais été rendu public, il n'est pas entré en vigueur. Même le comité qui était prévu pour sa mise en œuvre ne s'est jamais réuni.
Ouais.
Pour Christian Simard, directeur général de Nature Québec, la situation a trop duré.
Ce qu'on demande, c'est une publication intégrale maintenant, parce qu'on craint qu'après ces 3 ans-là, il a été caviardé ou qu'on ne publie que ce qui fait notre affaire dans le plan de rétablissement. Donc, une publication intégrale, la convocation du comité de mise en œuvre. On demande à ce moment-là que les actions soient posées. Puis dans les actions qui avaient été identifiées par le comité, c'est de créer des grandes aires protégées caribou. Et on en propose deux premières. Une dans le secteur Assinica, entre Chibougamau et Matagami, et au nord du Saguenay, le secteur de la vallée des Montagnes Blanches, où on sait qu'il y a d'importantes populations de caribou. Et ce serait un premier geste majeur pour protéger, garantir l'avenir de cette espèce.
Actuellement, dans les forêts boréales, il y a à peu près 5,5% de la superficie qui est protégée.
Dans la forêt boréale commerciale. Il y a seulement 5,5% des aires protégées, alors que dans les régions, habituellement, on tourne autour de 8%. Dans certaines régions, c'est plus. Dans certaines régions, c'est moins. Mais globalement, c'est 8% qu'on doit avoir dans toutes les provinces naturelles du Québec. Les provinces naturelles, c'est comme des régions naturelles. Et actuellement, dans les régions naturelles qui couvrent la forêt boréale commerciale, c'est sous-représenté. Donc, on manque d'aires protégées.
Mais c'est encore en deçà des normes internationales.
Oui, on parle d'une moyenne de 13% au niveau international. Le Québec a fait un rattrapage extrêmement intéressant depuis quelques années. On va atteindre bientôt 8%, il faut le noter. Maintenant, aucune de ces aires protégées-là n'a été faite en fonction de conserver l'habitat du caribou forestier. Et là, on est rendu à cette étape-là.
Pour donner un ordre de grandeur, Yannick, Christian Simard, en fait, parle de ces deux zones protégées comme étant des aires de 5000 km² dans la forêt boréale commerciale. Donc, grosso modo, situé entre le 50e et le 52e parallèle. Et dans le plan de redressement, on parlait plutôt de deux zones de 2000 km².
Et quand on parle de forêt boréale, parce que c'est là qu'on est, on parle évidemment d'exploitation forestière.
Et on parle également d'entreprises privées, donc qui exploitent le bois et dont les intérêts commerciaux et économiques ne vont pas toujours dans le même sens que le développement durable et la protection de la faune. Christian Simard admet cependant que les choses ont commencé à bouger et une des raisons, des impératifs commerciaux.
On sent une plus grande ouverture des compagnies forestières dans les discussions qu'on a avec eux, surtout celles qui ont la certification FSC. Forest Stewardship Council, c'est une certification d'une foresterie durable. Donc, pour l'avoir, il faut s'assurer que les forêts soient coupées de façon durable, qu'il y ait suffisamment d'air protégé, par exemple, qu'on ait une bonne connaissance des écosystèmes forestiers exceptionnels et qu'on ait des plans de conservation. Et à condition d'avoir ça, à ce moment-là, on vend beaucoup plus facilement son bois sur les marchés internationaux.
Cette capacité de mieux vendre si on gère bien la forêt, est-ce que c'est vrai aussi pour les États-Unis ou c'est vrai, par exemple, pour l'Europe où ils sont peut-être plus soucieux de ça?
C'est maintenant vrai partout. Oui. On s'aperçoit que le marché américain change. Il y a eu des campagnes auprès d'entreprises qui distribuent le bois. Même ici, vous savez, vous avez la compagnie Rona qui ne distribue que des bois certifiés FSC. Donc, il y a des avancées importantes aux États-Unis chez les grands distributeurs. C'était vrai seulement dans certains pays d'Europe il y a quelques années. Maintenant, c'est vrai presque partout. Si on veut vendre nos produits, on doit faire une foresterie correcte. Et malheureusement, le gouvernement agit comme protecteur d'une certaine arrière-garde. Il y a un rôle de l'État. Et je pense que le rôle de l'État dans la gestion forestière, dans la protection des habitats, c'est un rôle premier, protection des espèces menacées. C'est un rôle important. Et s'il n'y a pas un message clair de l'État, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une industrie privée prenne le leadership global de la question. Un par un, il y a des sensibilités extrêmement intéressantes qu'on voit, mais ils ne peuvent pas régler le problème sans l'aide de l'État et sans l'intervention de l'État.
Oui, mais un par un, personne ne fera le premier geste parce qu'ils ne veulent pas être qu'on reste avec les autres parce que...
Non, ils le font quand même parce que... Ils le font quand même parce qu'ils veulent pas se faire couper les marchés. C'est carrément une logique d'affaires.
Christian Simard est directeur général de Nature Québec. Alors Hugues, vous l'avez dit, les compagnies forestières ont fait partie du comité qui a déposé le plan de redressement du caribou donc en 2006.
Oui, un plan qui comprend un certain nombre d'obligations pour les entreprises forestières, dont celle d'avoir des plans d'aménagement du territoire qui tiennent compte de la ressource caribou. Le Conseil de l'industrie forestière du Québec a fait partie du comité qui a accouché de ce plan de redressement. Il demande maintenant au gouvernement d'aller de l'avant et de prendre une décision sur l'emplacement exact et l'étendue des aires de protection. On va écouter Jean Maltais, biologiste, qui est directeur adjoint foresterie et environnement au Conseil de l'industrie forestière du Québec.
Sur 30 actions qu'il y a dans le plan de rétablissement, il y en a... Une principale qui concerne l'industrie forestière, qui sont les principaux leaders, là, c'est de mettre en place des plans d'aménagement spéciaux pour le caribou forestier. C'est quelque chose qui a été fait par les industriels dans le cadre du dépôt de leur plan 2008-2013.
Vous parlez de plans d'aménagement de la part des entreprises forestières, mais là, on ne parle pas de l'établissement de zones protégées. Ce sont quand même deux choses différentes.
Dans le cadre du dépôt de leur plan d'aménagement, de l'industrie qui concerne l'établissement des aires de coupe et tout ça, les industriels avaient l'obligation, et eux ont fait leur travail, ces plans-là prennent en compte l'établissement de certains blocs de protection spécifiques pour le caribou forestier. Il y a les aires protégées qui rentrent dans le décor aussi, qui contribuent au maintien du caribou forestier. Puis dans les stratégies d'aménagement, il y a des lignes directrices qui ont été rédigées pour comment faire un plan d'aménagement pour le caribou forestier qui consiste à localiser des blocs de protection pour une période relativement longue et de préparer ce qu'on appelle des blocs de remplacement, d'aménager des blocs adjacents à ces blocs de protection-là actuels pour que les caribous puissent éventuellement retrouver un habitat favorable dans ces blocs de remplacement-là. Puis à ce moment-là, quand on va juger dans 30, 40, 50, 60 ans que ces blocs-là qu'on a préparés, qu'on a aménagés, sont utilisés par le caribou, ben on pourra planifier de la récolte dans des blocs de protection actuels là, qui sont gelés. Fait que dans le cadre de leur plan d'aménagement, il y a tout un système de ces blocs de protection-là qui ont été établis et des blocs de rotation, là, des stratégies de répartition de coupe. Il y a un paquet de choses là, qui a été pris en compte.
Est-ce que ces plans d'aménagement vont aussi loin que ce qui est proposé dans le plan de redressement?
Oui, c'est l'action 7 que dans le plan de rétablissement qu'on appelle. L'action 7 disait qu'il fallait qu'il y ait des plans d'aménagement qui soient établis pour chaque secteur d'intérêt qui sont identifiés par le ministère des Ressources naturelles. Le ministère a procédé à une foule d'inventaires, ont localisé des aires de caribou qu'on considèrent qu'ils valent la peine. Ils valent tous la peine, mais ils ont mis des priorités sur certaines hardes, on l'admet. Puis pour chacune de ces hardes-là, les industriels avaient l'obligation de déposer des plans, ce qu'ils ont fait.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au niveau de l'exploitation forestière, qu'il y ait le plan de redressement ou non soit mis en application par le gouvernement, les compagnies forestières vont de l'avant quant à un plan d'aménagement qu'elles ont elles-mêmes déposé sur la table.
Définitivement. Les aires protégées qui ont une certaine dimension peuvent jouer un rôle très important dans la conservation du caribou. Puis le conseil a vraiment dit au ministère, là, dépêchez-vous de mettre les aires protégées pour... je ne peux pas dire qu'on est tanné d'en entendre parler, mais on veut savoir où ils vont être pour pouvoir les prendre en compte quand on va élaborer nos plans caribou, puis qu'ils puissent être mis à profit pour le maintien de l'espèce.
Jean Maltais est biologiste au Conseil de l'industrie forestière du Québec. Alors, dernière question importante, Hugues. Du côté du gouvernement, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ce plan de redressement va finir sa vie sur une tablette?
Eh bien, on me dit, Yannick, au ministère des Ressources naturelles et de la Faune, que ce plan devrait entrer en vigueur cette année, au courant de l'année 2009, et qu'une annonce pourrait être faite au cours des prochaines semaines.
On va surveiller ça. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, plusieurs découvertes en paléontologie, dont celle du plus petit dinosaure carnivore de notre continent.
C'était un tout petit animal, à peu près la taille d'une poule. Il aurait eu des grandes mains avec des griffes acérées et sur son gros orteil, il aurait eu des grosses griffes crochues comme ceux qu'on connaît pour le dromaeosaure ou le vélociraptor. Le Speronicus était couvert de plumes. Thank you.
bien vilain, ce petit dinosaure. Alors, c'est maintenant l'heure du facteur. Voici la question de la semaine. Une question qui nous vient, d'outre-mer.
Bonjour les amis Lumière, je suis Michel Machu de Grenoble en France. J'entends depuis de nombreuses années le mot quantique associé à des disciplines scientifiques et mathématiques ou mathématiques, physiques, etc. Et même dernièrement, à une émission, je crois la vôtre ou celle de Mathieu Vidard, des matériaux quantiques. Auriez-vous l'amabilité de trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer, ou nous expliquer, car je ne dois pas être le seul, ce que quantique associé à de la science ou de la technique veut dire? Voilà, ben merci beaucoup d'avance pour la réponse. Au revoir.
Mais une bonne question, effectivement. Une question en plus embêtante que celle de notre auditeur de Grenoble, en France. Alors, pour répondre à Michel Machu, Chantal de Srivastava s'est adressée à Alexandre Blais, un crack de l'ordinateur quantique, qui est professeur de physique à l'Université de Sherbrooke.
La mécanique quantique, ça semble très, très mystérieux, en partie parce que les phénomènes que ça prédit sont eux-mêmes très, très mystérieux, là, si on compare à notre expérience quotidienne, en tout cas.
Alors, le mot « quantique », commençons par là, qu'est-ce que ça veut dire exactement, M. Blais?
Donc, ça veut simplement dire quelque chose qui arrive par petits paquets, quelque chose qui ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles. Par exemple, l'énergie. L'énergie d'un atome ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles, mais seulement quelques valeurs bien spécifiées.
Quantique, ça vient de quanta, c'est ça, quantum?
Oui. Quantus, qui veut dire combien.
Qu'est-ce que ça donne d'associer cette notion-là? Vous parliez de mécanique quantique, donc, mais à des disciplines mathématiques, physiques, informatiques. Qu'est-ce que ça ajoute de plus?
Donc, ben, en fait, pour la physique, la mécanique quantique, ça a vraiment été une révolution. Donc, c'est depuis le début du dernier siècle qu'on commence à comprendre que la nature obéit les lois de la mécanique quantique plutôt que les lois de la mécanique classique, newtonienne. C'est Planck qui a ajouté cette notion de quantification, donc de quelque chose qui arrive par petit paquet d'énergie, d'une façon complètement artificielle pour expliquer un problème qui durait depuis plusieurs années, un problème qui était inexpliqué depuis plusieurs années. Puis ensuite, Einstein a appliqué ça aux photons pour dire que la lumière elle-même arrive par petit paquet d'énergie. Donc, dans tout ça, les mathématiques sont le langage avec lequel on travaille, on explique la nature. Puis, plus récemment, on se rend compte que ces phénomènes quantiques-là, qui sont à la base de la nature, comme je le disais, peuvent être utilisés pour toutes sortes de choses, utiles. Par exemple, le laser, c'est une invention qui est sortie de la mécanique quantique.
Pour bien comprendre donc la mécanique quantique par rapport à la mécanique plus classique, la différence, c'est quoi? C'est que ça change notre façon de voir ce qu'est la matière, de la concevoir, de l'analyser. Si on prenait, par exemple, le corps versus l'onde, la nature de la lumière, c'est de ça dont on parle quand on parle de quantique?
Oui, tout à fait. Donc, en mécanique quantique, il y a donc ce qu'on appelle la dualité onde-particule. On ne sait pas si le photon est une onde ou une particule. Puis ça dépend, en fait, de l'expérience qu'on fait sur notre photon. C'est ça qui va décider s'il est une onde ou une particule en bout de ligne. Même chose pour l'électron. En fait, même chose pour toutes les particules. Mm-hmm. Il y a aussi une relation qu'on entend souvent parler, même dans les films populaires, la relation d'incertitude d'Heisenberg, qui dit qu'en mécanique quantique, on ne peut pas connaître tous les paramètres d'un système de façon parfaite. Par exemple, je ne peux pas connaître la position d'un objet et sa vitesse simultanément avec une précision infinie. Là. Il y a une limite à la connaissance que je peux avoir. Donc, une espèce d'incertitude associée à la mécanique quantique.
Donc, en résumé, Alexandre Blais, pour répondre à notre auditeur, Michel Machu de Grenoble, qui dit « matériaux quantiques », qu'est-ce que quantique associé à de la science ou de la technique veut dire? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre simplement là, pour faire image et qu'il se rappelle vraiment qu'est-ce qu'on décrit quand on utilise cet adjectif?
Donc, on décrit de façon générale la physique la plus fondamentale, dans un sens, en tout cas, au moins comment on la comprend maintenant. La plupart des physiciens dans le monde maintenant travaillent avec la mécanique quantique. C'est la théorie qui explique la nature avec le plus grand degré de précision. Puis c'est aussi une théorie qu'on va entendre de plus en plus parler parce qu'il y a des nouvelles technologies comme les ordinateurs quantiques, la cryptographie quantique, qui vont utiliser cette théorie-là de façon très, très spectaculaire. Puis c'est des choses qui arrivent dans notre avenir. Quand on parle d'univers puis de gravité, il y a un grave problème, là. Donc, on n'est pas capable encore de nos jours de mettre la théorie de la gravité avec la théorie quantique. Si on réussit à mettre ces deux théories-là unifiées, les mettre ensemble, c'est un des grands challenges de la physique théorique moderne. En fait, c'était le grand challenge que Einstein s'était donné puis qu'il n'a jamais réussi à résoudre. Donc, il y a un grand problème à ce niveau-là, au point de vue théorique.
Chantal Srivastava interviewait Alexandre Blais, qui est professeur de physique à l'Université de Sherbrooke. Alors, si vous voulez nous poser vous aussi vos questions, vous pouvez le faire par téléphone. De la région de Montréal, vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, c'est le 1-800-752-9050. Vous pouvez aussi nous appeler de l'étranger, on vient de l'entendre. Et là-dessus, on s'en va à la chronique de Laurent Drissen, où il sera de nouveau question de phénomène quantique. Laurent Drissen maintenant pour la chronique des années-lumière. Laurent Drissen, astrophysicien à l'Université Laval. Bonjour Laurent.
Bonjour Yannick.
Alors, vous allez nous raconter aujourd'hui qu'il y a vraiment de l'action. C'est pas nouveau, mais enfin, il y a de l'action dans l'univers. On a observé quelque chose de tout à fait extraordinaire tout récemment.
Oui, donc c'était le 16 septembre dernier. C'est des instruments à bord d'un télescope spatial, un tout nouveau télescope spatial qu'on appelle Fermi, qui a détecté l'explosion la plus violente jamais observée dans l'univers.
Rien de moins.
Rien de moins que ça. Et c'est un sursaut gamma, en fait, qui est situé à environ 12 milliards d'années-lumière de la Terre.
Oui, sursaut gamma, on va peut-être refaire le B à bas. Hein?
Oui, disons, les sursauts gamma, c'est une découverte qui a été faite par hasard dans les années 60. C'est des satellites espions américains qui essayaient de détecter des explosions thermonucléaires des soviétiques. Mm-hmm. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus de rayons gamma qui provenaient de l'espace que de l'URSS.
Oui.
Et c'est devenu...
Heureusement, d'ailleurs.
Oui, et d'un problème géopolitique, oui. C'est devenu un problème astronomique. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des sursauts, des bouffées de rayons gamma qui durent quelques secondes à quelques minutes au gros maximum. Mm-hmm. Et ça provient de toutes les directions du ciel. Il y en a vraiment de répartis de manière tout à fait homogène.
Et ça, maintenant, on connaît bien ça. On observe beaucoup et souvent.
Oui, c'est tout à fait régulier, mais au début, c'était extrêmement difficile de comprendre le phénomène parce que les télescopes étaient peu précis, ça durait très peu de temps, on ne pouvait pas en obtenir le spectre, si bien qu'il y a eu des centaines d'hypothèses qui ont été émises.
Ah oui.
Et maintenant, on en connaît beaucoup mieux grâce aux nouveaux télescopes spatiaux, et il y a une hypothèse qui fait le consensus, un modèle qui fait vraiment consensus parmi les astronomes, c'est la transformation d'une étoile extrêmement massive en trou noir. À la fin de sa vie.
Donc, une implosion, là.
Une implosion suivie d'une explosion,
ouais.
Comme une supernova ordinaire, mais disons à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande en termes d'énergie.
Et vous avez dit, peut-être deux secondes, il faut rappeler le télescope spatial Fermi qui a observé ça, donc... au mois de septembre dernier, c'est un nouveau télescope spatial, vous avez dit qu'il y a...
Oui. C'est un nouveau qui a été lancé par la NASA l'été dernier et qui a pour objectif justement d'étudier le ciel en rayons gamma, donc étudier les étoiles à neutrons et détecter éventuellement des sursauts gamma.
Donc il fait son travail. Alors ce qu'on a détecté donc le 16 septembre dernier, j'imagine comme d'habitude, vous lui avez donné les astronomes un joli petit nom.
Oui, GRB-0809-16C.
oui, c'est ça. Donc ça c'est le nom de ce sursaut. On va le décrire peut-être un peu, parce que vous dites que c'est le plus gros jamais observé, l'explosion la plus violente jamais observée, il faut décrire ça.
Oui, donc c'est intéressant. Fermi donc l'a détecté et très rapidement, ça a engendré une série d'observations à toutes les longueurs d'onde, des ondes radio, rayons X, observations au niveau du sol, télescope terrestre. Mm-hmm. On a pu déterminer donc sa distance, 12,2 milliards d'années-lumière.
Très loin.
Mm-hmm. Et connaissant sa distance et la quantité de lumière qui nous est parvenue, on peut déterminer sa luminosité intrinsèque, donc sa puissance propre. Et ça correspond, c'est vraiment l'explosion la plus puissante qui a jamais été observée. Ça équivaut à environ 9000 explosions de supernova simultanément.
9000. Ouais, c'est beaucoup.
Et une autre façon de le voir, c'est comme si vous annihiliez complètement 5 fois la masse du Soleil instantanément en énergie.
C'est de l'explosion, ça, monsieur. Hein?
Exactement. Oui. Mais il y a un petit bémol quand même à apporter ici, c'est que pour faire ces calculs-là, on suppose que toute l'énergie, tous les rayons gamma ont été émis de manière tout à fait uniforme dans toutes les directions. Or, La plupart des gens sont d'accord pour dire que l'émission doit être concentrée d'une manière ou d'une autre, dans un cône qui a une ouverture plus ou moins grande. Donc, l'énergie intrinsèque, il y a quand même des incertitudes assez grandes là-dessus.
Et vitesse, une explosion fabuleuse. Vitesse fabuleuse aussi, oui, dans laquelle la matière est répandue, est répartie, est éjectée.
On parle de 99,9999% de la vitesse de la lumière. C'est phénoménal. Mais ce qui est vraiment particulier avec ce sursaut gamma, c'est que les rayons gamma d'abord de très haute énergie sont arrivés une quinzaine de secondes plus tard que les rayons gamma de basse énergie.
Et ça vous chicote?
Ça nous chicote, ouais. Parce que depuis le début du 20e siècle, on enseigne aux étudiants que la vitesse de la lumière est constante, n'est-ce pas, dans le vide, quelle que soit sa fréquence. Alors, il y a quelque chose vraiment de fondamental là-dedans qu'il faut expliquer.
Donc, on se demande pourquoi. Alors là, j'imagine que les papiers qui viennent de sortir, c'est juste justement, notamment autour de ça, comment expliquer cette différence de 15 secondes sur 14, sur 12 milliards d'années-lumière? C'est quand même très important.
Ça peut paraître peu, mais il faut quand même une explication physique. Oui. Et il y en a deux grandes explications physiques. La première, c'est la plus simple, c'est que le mécanisme même de l'explosion, de la transformation de l'étoile massive en trou noir, génère des rayons gamma de basse énergie avant ceux de plus haute énergie.
15 secondes avant, par
15
exemple.
Secondes avant. Et donc, si les rayons gamma de basse énergie sont émis en premier, c'est normal qu'ils arrivent sur Terre avant les autres. C'est une hypothèse qui est simple, mais on connaît très, très mal le mécanisme de formation du trou noir. La deuxième hypothèse, elle est un petit peu moins probable, mais elle est extrêmement intéressante du point de vue de la physique fondamentale. C'est que si les rayons gamma de haute énergie sont arrivés après, c'est effectivement qu'ils ont un petit peu pris leur temps pour arriver à la Terre.
Mais c'est contraire à ce que vous racontez à vos étudiants depuis des siècles. Depuis un siècle, oui, quand même.
Oui. Vous savez, il y a deux grandes théories physiques à la base de la physique du 20e siècle. Il y a la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Et les deux théories sont parfaitement excellentes, sont parfaites dans leur propre domaine respectif. La relativité générale, dans le cas où on a affaire à des grandes masses, et la mécanique quantique dans l'infiniment petit. Mais les deux théories sont complètement incompatibles l'une avec l'autre. Ce qui fait que depuis une trentaine d'années, les physiciens essaient d'élaborer des théories qui réconcilieraient les deux. Et la plus connue d'entre elles, c'est la théorie des cordes, par exemple. Mais il y en a une autre qui est un petit peu moins connue. C'est ce qu'on appelle la théorie de la gravité quantique à boucle.
Oh mon Dieu! Il nous reste quelques secondes, Laurent.
Oui.
Vous embarquez dans un gros sujet.
Donc, d'après cette théorie, l'espace-temps serait serait composé de petites entités. Et une des plus importantes prédictions de cette théorie, c'est justement que les rayons gamma de haute énergie sont plus sensibles à ces discontinuités de l'espace-temps. Et erre en chemin. Et donc, ça serait éventuellement une des solutions à ce mystère du sursaut gamma.
Une belle hypothèse, testable.
Oui, c'est simplement en observant des sursauts gamma à différentes distances. Et si on remarque une variation systématique du délai entre les rayons gamma de différentes énergies et la distance, c'est que la théorie quantique à boucle est à considérer avec un peu plus d'intérêt.
La théorie quantique de la gravité quantique à boucle, fascinant. On y reviendra certainement, Laurent. C'est notamment ce que va faire donc ce télescope Fermi au cours des prochaines années.
Exactement, oui.
Laurent Drissen, je vous remercie beaucoup.
Merci Yannick.
Et c'est ainsi que nous bouclons notre première heure. À voir ce soir à Découverte à la télévision de Radio-Canada, 18h30, le premier de trois épisodes tournés en haute définition sur l'Arctique. Un monde en pleine mutation, c'est tourné conjointement par Découverte et par les collègues du réseau anglais de Nature of Things. Et ça, c'est à 18h30. Mais d'ici là, vous restez à la radio après les nouvelles, la deuxième heure des années-lumière. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours et l'équipe pour vous présenter ce magazine d'actualité et de culture scientifique. Alors, cette deuxième heure, on la commence avec une grande vadrouille paléontologique de Sophie-André Blondin. Après le petit journal de la science, Chantal de Srivastava nous parle de technologie de l'environnement, de technologie au service de l'environnement. Et pour terminer l'émission, je reçois l'auteur de la semaine, le médecin et journaliste scientifique Gérard Lambert, qui vient de publier un livre intitulé « Vérole, cancer et compagnie » aux éditions du Seuil. Alors, grande vadrouille, effectivement, Sophie André, parce que l'actualité a été faste du côté des fossiles. Différentes équipes, dans différents lieux, ont publié des découvertes au sujet de créatures issues de différentes époques, toutes lointaines, vraiment une récolte magnifique. Alors, un nouveau prédateur, pas plus gros qu'un poulet, découvert en Alberta, un monstre carnivore cambrien en Colombie-Britannique, ailleurs, des bandes de dinosaures adolescents, des herbivores à plumes, on commence par quoi, Sophie André?
Je vous propose de commencer par le commencement, Yannick, par le plus ancien des fossiles qui viennent de livrer certains de leurs secrets. Alors, on recule jusqu'au Cambrien, il y a 500 millions d'années. Il y a des traces des animaux de cette époque qui sont préservées dans les schistes de Burgess, en Colombie-Britannique. C'est un vieux site qui a été découvert il y a exactement 100 ans, qui continue à révéler de nouvelles informations scientifiques. Il y a là des boues fines. Les boues ont ralenti la décomposition des animaux. Donc, il s'agit du meilleur endroit au monde pour trouver des fossiles de l'époque du Cambrien.
Et là, il faut le rappeler, on est quand même très, très, très avant les dinosaures.
On est comme 300 millions d'années avant l'apparition des dinosaures. Il n'y a pas d'animaux terrestres, seulement des animaux marins. Et parmi ces animaux, peu de prédateurs, et les plus grands prédateurs sont les ancêtres des arthropodes. Les arthropodes qui sont caractérisés, comme leur nom nous le dit, par leurs pieds articulés.
Évidemment.
Leurs petits sauts vers le présent, les écrevisses, les crabes, les insectes, les fourmis, les araignées, sont des arthropodes avec leur squelette externe.
Et les prédateurs, là, ancêtres des arthropodes, régnaient en maître il y a 500 millions d'années.
Oui, jusqu'ici, on croyait qu'il y avait surtout un maître, un grand prédateur. Mais Alison Daly, de l'Université d'Uppsala, en Suède, a réexaminé des fossiles qui avaient déjà été caractérisés. Et elle a déterminé, en fait, qu'il s'agissait d'un autre prédateur qui s'appelle Urdia victoria. Et c'est dans la collection de fossiles du schiste de Burgess qui se trouve au Royal Ontario Museum qu'elle a commencé les recherches et ça l'a mené à publier sa découverte dans la dernière édition de la revue Science. Son article est aussi signé par Jean-Bernard Caron. Il est conservateur des fossiles d'invertébrés au Royal Ontario Museum de Toronto. Et c'est lui qui nous décrit ce nouveau monstre prédateur du Cambrien.
Alors, l'animal qu'on décrit pouvait atteindre environ 30 cm. Ça paraît un petit peu ridicule, moins que la taille d'une chaussure.
C'est petit comme monstre prédateur.
C'est un petit monstre. Cependant, il faut savoir que la plupart des animaux qui vivaient à l'époque étaient tout petits, en fait, pas plus grands qu'un ongle. Donc, en fait, 30 cm, c'était un géant pour ces petites proies. L'animal décrit ici était en fait l'un des deux grands prédateurs. L'autre, il s'appelle Anomalocaris. Il était plus grand, il pouvait peut-être être 60 ou 70 cm de long.
Celui-là, donc, s'appelle Urdia.
Urdia, voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on peut le présenter? Est-ce qu'on peut essayer de le décrire à nos auditeurs?
Oui, ça ressemble un petit peu à un monstre de science-fiction, mais ça existait vraiment. Alors d'abord, il a un corps assez court, avec des lobes sur les côtés qui lui permettaient de nager. Et la moitié de la longueur du corps est représentée par des carapaces, donc à l'avant, trois carapaces qui forment une sorte de petit tunnel où en fait les proies pouvaient être attirées et éventuellement mangées. L'une des carapaces donc de la tête est très longue et pointue et pouvait faire des dégâts si on s'approchait trop près.
Et les proies passaient donc dans ce que vous appelez ce tunnel, cette grande, grande bouche?
Voilà, c'est ça. En fait, les proies passaient par là. Et ensuite, au fond de ce tunnel, si vous voulez, il y avait la bouche avec des grosses pinces qui devaient attraper les proies et puis les avancer dans la bouche. La bouche en elle-même est énorme, puisqu'elle fait pratiquement le même diamètre que l'animal lui-même, dans sa plus grande section. Et la bouche est circulaire, c'est une bouche assez curieuse, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. C'est une bouche circulaire, comme je disais, donc avec 32 dents qui forment un disque, avec des dents supplémentaires à l'intérieur de ce cercle, donc à plusieurs niveaux. L'analogie un peu, là, c'est le taille-crayon qui permet de d'aiguiser le crayon. Donc vous avez le même principe, il vaut mieux pas mettre son doigt à l'intérieur de cette bouche.
Effectivement, donc un prédateur efficace que ce Urdia.
Voilà, tout à fait efficace. On ne sait pas trop ce qu'il mangeait, puisqu'on n'a pas retrouvé de contenu dans les estomacs. On ne savait pas trop ce qu'il mangeait, mais peut-être des proies assez molles, des choses qui sont assez molles. Sinon, on retrouverait des parties dures, comme des carapaces, juste comme ça. Mais on n'a rien retrouvé, donc on pense que c'était un animal qui vivait sur peut-être des vers ou des choses comme ça.
Il mangeait mou.
Il mangeait mou, voilà, malgré sa grosse bouche.
Donc, Sophie, c'était Jean-Bernard Caron, conservateur des fossiles d'invertébrés au Royal Ontario Museum à Toronto. Alors, si on avance dans le temps et si on va vers l'est du pays, on a trouvé donc un autre prédateur. Lui est très différent.
Très différent. Hesperonychus elisabethae est d'abord un dinosaure cette fois.
Oui.
Il est donc beaucoup plus jeune. C'est un carnivore qui chassait dans ce qui est aujourd'hui l'Alberta il y a 75 millions d'années. Le fossile lui aussi avait déjà été identifié, mais à tort, comme un vélociraptor juvénile. Mais Nick Longridge de l'Université de Calgary a constaté que les os de ses hanches étaient soudés. Ce qui indique qu'il s'agit plutôt d'un adulte. D'un tout petit adulte. Il est gros comme un poulet et c'est le plus petit dinosaure carnivore à avoir habité notre continent. La revue Proceedings of the National Academy of Sciences publiait la découverte et j'ai demandé à François Terrien, qui est conservateur en paléoécologie au Musée Royal Tyrrell en Alberta, de faire les présentations.
C'est le premier en Alberta. Il y a des animaux d'Asie, de la Mongolie et de la Chine qui ont été découverts et qui sont semblables en frais de taille et de ressemblance. C'était un tout petit animal, comme on l'a dit, à peu près la taille d'une poule. Il aurait eu des grandes mains avec des griffes acérées et sur son gros orteil, il aurait eu des grosses griffes crochues comme ceux qu'on connaît pour le dromaeosaure ou le vélociraptor. Et ce qu'on sait aussi à partir des animaux de la Chine, c'est que ces animaux-là étaient couverts de plumes. Donc, il n'y a aucun doute que l'Hesperonychus aussi aurait été couvert de plumes.
De la taille d'une poule couvert de plumes, mais autrement plus menaçant.
Oui, il y aurait eu aussi des dents. Ça, il aurait pu mordre ses proies et avoir des grosses griffes acérées pour aussi capturer ses proies. Donc, il n'y a aucun doute qu'il aurait pu capturer des petits lézards ou des petits mammifères ou même des insectes pour se nourrir.
Est-ce qu'on sait à quelle période il vivait et quel était son territoire?
Le spécimen provient du parc provincial des dinosaures, qui est au sud-est de l'Alberta. Et les roches du parc provincial des dinosaures datent d'environ 75 millions d'années. Donc, on sait que l'Hesperonychus a vécu à ce moment-là, mais ça ne nous surprendrait pas s'il avait vécu aussi avant et après. C'est juste qu'on n'a pas encore découvert de fossiles de ce petit animal-là datant d'autres périodes. Mais maintenant qu'on sait qu'ils étaient ici, on va pouvoir porter de plus grandes attentions.
On va, j'imagine, revoir, réexaminer les fossiles qu'on a de son grand cousin, le raptor, pour voir s'il n'y a pas parmi les individus juvéniles qu'on imaginait être des raptors d'autres spécimens d'Hesperonychus.
Oui, tout à fait. Le problème ici en Alberta, c'est qu'il y a eu beaucoup d'emphase sur la découverte de gros spécimens. Il y a tellement d'eau fossiles dans les environs que c'est facile d'aller juste trouver les plus gros os et d'oublier qu'il y a beaucoup de petits os qui sont dans les environs, sont beaucoup plus difficiles à découvrir. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plus d'emphase sur les gros spécimens qui font des superbes spécimens pour les musées également. Mais les plus petits spécimens donnent beaucoup d'informations aussi sur les anciens écosystèmes. Donc, ces spécimens-là, quand bien même qui peuvent être moins impressionnants qu'un squelette complet du tyrannosaure, par exemple, nous donnent tout autant d'informations. Donc, il va falloir retourner sur le terrain et commencer à faire plus d'efforts à rechercher des spécimens qui sont plus petits.
Ben oui, Sophie André, parce qu'il n'y a pas que la taille qui compte.
Non.
La vélocité et la férocité aussi. Alors toujours cette semaine, toujours dans le monde fascinant des dinosaures, on a aussi découvert d'autres spécimens fort intéressants.
Oui, cette fois, c'est en Chine et le dinosaure porte le nom de Tianyulong Confuciusi.
Oui.
C'est un dinosaure herbivore qui est pourvu de plumes. Et c'est dans la revue Nature, cette fois, que les travaux de Xiaoqing Zheng ont été publiés mercredi. François Terrier nous explique l'originalité de cette découverte.
C'est une toute nouvelle découverte. C'est un dinosaure qui provient de la Chine, des mêmes sites qui nous ont livré beaucoup de dinosaures carnivores à plumes, comme un animal rapproché de l'Hesperonychus qui s'appelle Microraptor. Des mêmes lits, on vient tout juste d'annoncer la découverte d'un dinosaure herbivore, cette fois, qui aussi était couvert de plumes ou au moins de tiges qui ressemblaient à des plumes le long de son dos. C'est une découverte d'une très grande importance, non seulement parce que c'est la première fois ou la deuxième fois, je devrais dire, qu'on trouve des plumes sur un dinosaure herbivore, mais aussi il s'agit d'un animal qui, dans son propre temps, était un fossile vivant, parce que cet animal-là, appelé un hétérodontosaure, était connu de roches qui dataient du début de l'âge des dinosaures, mais là, on se trouve dans des roches qui représentent plus la fin de l'âge des dinosaures, et cet animal-là est pratiquement identique aux espèces qu'on trouvait au début de l'âge des dinosaures. Donc, c'était un animal qui était, de son temps même, un fossile vivant, et en plus, on trouve que cet animal-là avait des plumes, donc ça nous dit que des dinosaures ont évolué très rapidement au cours de leur évolution, les plumes du côté des animaux carnivores, mais aussi du côté des animaux herbivores. Donc, c'est réellement une preuve que l'évolution laisse des fossiles vivants en tout temps. Aujourd'hui, on parle des crocodiles comme étant des fossiles vivants, mais la même chose se passait de par le passé, même durant le temps des dinosaures. Certains dinosaures étaient des fossiles vivants.
Pas encore une autre preuve de l'évolution, Sophie André.
Ah, ça s'accumule.
Voilà, autre découverte, là on s'en va en Mongolie, j'ai parlé de Grande Vadrouille, c'est pas pour rien. On s'en va dans le désert de Gobi, c'est une équipe de Paul Sereno qui est paléontologue à l'Université de Chicago. Et là, c'est pas une question de nouveaux dinosaures, de classification, mais on parle de leur organisation sociale, de leur comportement.
Et
oui.
C'est dans un bain de boue qu'on a trouvé les indices. La scène du crime est la suivante. On a trouvé les fossiles de 25 dinosaures, des dinosaures autruches, tous morts en même temps et conservés dans un bourbier. Ils sont probablement morts, embourbés d'ailleurs. Mm-hmm. Mais le fait à noter, c'est qu'ils étaient tous juvéniles. Aucun des dinosaures du groupe n'avait plus de 7 ans. Et le fait de ne pas avoir d'adultes dans le lot, c'est un indicateur de l'organisation sociale des dinosaures.
Ben oui.
Une organisation qu'on observe encore chez leurs descendants, comme l'explique François Terrien.
Il y a beaucoup de découvertes qui, si on porte attention, qui nous disent beaucoup d'informations sur le mode de vie, les comportements sociaux des dinosaures. Et ce qu'on a appris ici, c'est un autre exemple parmi nombreux qui démontre que les oiseaux sont des dinosaures et qu'en fait, le mode de comportement qu'on voit parmi les oiseaux n'est pas unique à eux. Ce sont des comportements qu'ils ont hérités de leurs ancêtres, les dinosaures. Donc ici, on voit plusieurs animaux qui vivaient dans un groupe séparés des adultes, et parmi les oiseaux modernes, on voit plusieurs groupes aussi qui font la même chose, que les adolescents, les juvéniles vivent indépendamment des adultes.
Alors c'était François Terrien qui est conservateur en paléoécologie au Musée royal Tyrrell en Alberta. Merci beaucoup Sophie André.
Ça fait plaisir.
À quelques mois de la grande rencontre de Copenhague sur le climat, 2500 scientifiques de 80 pays viennent de se réunir dans la capitale danoise pour faire le point sur l'état des connaissances. Leur message aux chefs d'État qui devront s'entendre en décembre prochain sur l'après-Kyoto est limpide. Les récentes observations confirment les pires scénarios. Plus le temps passe, plus la vitesse des changements s'accélère. Des changements qui vont bien au-delà de la variabilité naturelle du climat. Un état de fait qui se vérifie pour une foule de phénomènes allant des températures mesurées à la surface du globe jusqu'à la hausse du niveau des mers, en passant par la survenue d'événements climatiques extrêmes, ce qui amène les experts à conclure que les grands de ce monde doivent agir sans plus tarder. Les 2500 scientifiques mettent également les politiciens en garde contre le risque d'engendrer des iniquités sociales et économiques si on ne se prépare pas dès aujourd'hui pour faire face aux changements qui nous guettent. L'inaction est inexcusable, écrivent-ils. Il faut d'ores et déjà s'atteler à la tâche pour transformer nos sociétés et nos économies qui reposent beaucoup trop sur les énergies fossiles.
Les êtres humains ne sont pas les seuls à prendre soin de leur dentition. Il y a aussi des singes qui le font. Il s'agit d'un groupe de macaques crabiers qui utilisent des cheveux humains comme fil dentaire pour se nettoyer les dents. Ces singes ont élu domicile dans un temple du nord de la Thaïlande. Ils ont pris l'habitude de grimper sur la tête des visiteuses du temple pour leur arracher quelques cheveux, cheveux qu'ils utilisent ensuite comme soie dentaire. Ce comportement a intrigué une équipe de recherche de l'Université de Tokyo qui a entrepris d'étudier le phénomène. En 5 ans, le nombre de singes qui se curaient les dents est passé de 9 à 50 sur une population de 200 individus. Les chercheurs se sont aperçus à leur grande surprise que les femelles de l'espèce se sont mises à enseigner aux jeunes l'art et la manière de se passer le fil entre les dents. Jusqu'à maintenant, on considérait que seuls les êtres humains pouvaient enseigner à utiliser convenablement un outil. Donc, prochaine étape pour les chercheurs de l'Université de Tokyo, vérifier si les jeunes vont profiter de l'enseignement de leur mère et vont effectivement apprendre à se nettoyer les dents selon les règles de l'art.
Dangereux et irresponsable. C'est ainsi que le président de l'International AIDS Society, Julio Montaner, qualifie les propos du pape Benoît XVI au sujet du rôle des condoms dans l'épidémie de sida. Plus tôt cette semaine, en entamant son premier voyage en sol africain, le souverain pontife avait affirmé que la distribution de condoms pouvait aggraver le problème du sida. Aucune preuve, aucun fait ne pointe dans cette direction, rétorque le docteur Montaner. Au contraire, soutient-il, les condoms masculins et féminins, lorsqu'ils sont utilisés correctement et diligemment, peuvent réduire les risques de transmission sexuelle de 80 à 90%. Le directeur de l'International AIDS Society, Craig McClure, va encore plus loin. Selon lui, suggérer que l'usage du condom contribue au problème du sida, comme le fait Benoît XVI, est non seulement contraire aux preuves scientifiques, mais contribue à alimenter l'infection au VIH et ses conséquences, la maladie et la mort. L'International AIDS Society compte 13 000 membres dans 188 pays.
L'édition 2009 d'Americana, le Salon international des technologies environnementales, se tenait cette semaine au Palais des congrès de Montréal. 10 000 participants de 60 pays s'y étaient donné rendez-vous. Chantal de Srivastava, vous êtes allé voir ce qu'il y a de nouveau sous ce soleil-là.
Beaucoup, beaucoup de choses, Yannick, parce que 175 conférences ont eu lieu au cours des 3 jours qu'a duré l'événement. Événement qui est organisé par Réseau Environnement, une ONG qui fait du maillage, si vous voulez, entre l'industrie et des clients potentiels, comme des municipalités. Alors, on retrouve à Americana des ingénieurs, mais également un nombre impressionnant de gestionnaires de tous les niveaux, municipal, provincial, même fédéral, des gens qui doivent utiliser un éventail de technologies de plus en plus sophistiquées pour s'attaquer à des problèmes bien concrets comme le traitement des eaux usées, la gestion des matières résiduelles et bien sûr l'alimentation en eau potable.
Alors, et comme c'est aujourd'hui justement la journée mondiale de l'eau, Chantal, on va commencer par l'eau.
L'eau qui est au cœur de plus de la moitié des activités à Americana. Philippe Quadio est responsable de tout ce secteur à Réseau Environnement. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. C'est un ingénieur spécialisé en traitement de l'eau. Il nous présente ici le dernier cri en matière de technologie, Yannick, la filtration membranaire dont on a beaucoup parlé à Americana cette semaine.
Lorsqu'on parle de filtration membranaire, on parle de microfiltration, d'ultrafiltration, de nanofiltration et d'osmose inverse. En partant de la microfiltration jusqu'à l'osmose inverse, la qualité de l'eau s'améliore. Le problème, c'est que le procédé demande beaucoup plus d'énergie. Donc, selon la qualité de l'eau qu'on a au départ, on va choisir soit la microfiltration pour enlever juste des particules, la nanofiltration pour enlever non seulement des particules, mais enlever aussi des bactéries, des virus, et l'osmose inverse pour faire du dessalement d'eau de mer.
Alors, on parle quoi de possibilité de dessaler l'eau de mer et même de récupérer ce qu'on appelle les eaux usées, donc les eaux qui iraient normalement à l'égout?
Oui, techniquement, c'est possible de dessaler l'eau de mer pour produire de l'eau potable, de l'eau de consommation. Il est aussi possible de traiter les eaux usées pour en faire une source d'eau potable. Mais c'est certain que au niveau des eaux usées, c'est le problème, la barrière est plus psychologique que technologique.
Donc, on pourrait avoir des eaux qui vont de l'égout au robinet et qui sont potables.
Mais c'est ce qui arrive parce que lorsqu'on considère une station de traitement d'eau usée, l'eau qui sort de la station de traitement va dans la rivière. Bon, il y a bien sûr l'effet de dilution, mais une ville qui est en aval de la station de traitement va recevoir de l'eau usée de la ville en amont. Donc, c'est certain que c'est toujours de l'eau usée, mais en fait, il y a eu un phénomène de dilution parce que bon, la rivière ou le lac est quand même assez grand, il y a beaucoup d'eau. Donc, il y a un effet de dilution, mais il y a de l'eau usée là-dedans pareil.
Est-ce qu'on le fait à grande échelle et est-ce qu'on le dit aux gens automatiquement quand on le fait?
Généralement, où on le fait, on essaie de le faire d'abord à petite échelle. Petite échelle, ça veut dire qu'un certain pourcentage, peut-être 10% de l'eau totalement, l'eau utilisée va provenir des eaux usées. Et au fil du temps, bon, on peut accroître parce que la barrière psychologique est assez importante. Donc, psychologiquement, on n'est pas prêt à utiliser uniquement de l'eau usée pour alimenter une ville.
Et on le fait, il y a un cas, je pense, en Afrique.
Oui, en Namibie, à Windhoek, en Namibie, ça se fait déjà. La chaîne de traitement est assez longue, mais oui, on utilise les eaux usées pour alimenter la population en eau.
La population est au courant?
Oui, je pense que la population est au courant, mais le besoin en eau est tellement criant qu'on n'a comme pas le choix de le faire.
Et on a les moyens de payer pour les technologies adéquates parce que c'est un autre facteur également, comment traiter toute cette eau et le faire dans des pays où les moyens sont souvent plus limités que dans les pays plus développés.
L'eau est un bien essentiel. Tout le monde a besoin de boire de l'eau. Donc, lorsque on a la possibilité de pouvoir transformer une eau, qu'elle soit de l'eau usée ou de l'eau de mer en eau potable, les gens sont prêts à trouver les moyens pour investir. C'est vrai que c'est encore plus difficile pour les populations moins nanties, mais c'est certain que les pays développés qui ont les moyens n'hésiteraient pas à utiliser toutes les technologies disponibles pour pouvoir produire de l'eau. L'important, c'est d'avoir de l'eau et de l'eau de bonne qualité.
Philippe Couadio est responsable du secteur eau à Réseau Environnement, l'organisme donc qui est en charge de ce salon Americana.
Et j'ouvre une parenthèse, Yannick, pour vous dire qu'il me disait qu'ici au Québec, au Canada, on a tellement d'eau qu'on n'a pas besoin de traiter nos eaux usées pour les consommer à nouveau. Par ailleurs, il faut dire qu'on gaspille vraiment énormément notre eau. Oui, je vous donne quelques chiffres. Tous usages confondus, un Canadien consomme en moyenne 329 litres d'eau par jour, un Québécois 424, alors qu'un Africain consomme en moyenne de 10 à 20 litres d'eau par jour. Ça inclut les usages industriels. Et ça, de 10 à 20 litres d'eau, c'est la quantité qu'on gaspille si on ne ferme pas le robinet durant les 2 minutes où on se brosse les dents. Fin de la parenthèse pour replonger, si vous le voulez bien, dans le menu du Salon Americana 2009 ou lors d'une session sur le traitement des eaux usées, j'ai appris, entre autres choses, que certaines technologies qu'on utilise dans les résidences isolées pour les traiter, ces eaux, ne sont pas aussi efficaces qu'on ne le croit. Une communication présentée par Roger Lacasse, directeur technique et scientifique chez Premier Tech Environnement, une compagnie de Rivière-du-Loup qui développe des systèmes de traitement des eaux usées, a noté qu'on estime qu'environ le quart des ménages utilisent ce genre de système. Roger Lacasse nous donne ici plus de détails.
On parle de différents types d'approches, des systèmes composés normalement d'une unité primaire qu'on appelle la fosse septique et dans la plus simple version d'un champ d'épuration que tout le monde connaît. Là. Souvent, on va utiliser le terme unité de traitement autonome. Autonome dans le sens qu'on n'a pas besoin d'un réseau d'égouts, donc on n'a pas besoin de collecter ces eaux-là pour les traiter dans un endroit centralisé, d'où aussi l'appellation de plus en plus répandue d'assainissement décentralisé.
Alors, le traitement, ça a l'air simple quand vous le dites comme ça, mais dans la réalité, compte tenu de nos modes de vie qui changent, est-ce que les systèmes sont encore toujours adaptés aujourd'hui pour faire le travail, traiter les eaux usées?
C'est une très bonne question parce que, justement, nous, en développant ces types de systèmes-là, on s'est penché sur la question de considérer On sait que si on compare il y a 30 ans, notre mode de vie a changé et on ne génère pas les eaux de la même façon. Et ça a peu d'impact quand on parle d'un système centralisé, mais quand on parle d'une unité individuelle, la génération des eaux dans une même journée ou durant une semaine peut avoir un impact énorme parce que le système reçoit, lui, l'eau telle qu'elle est produite à la sortie de la maison. Donc, si on pense seulement au fait que de plus en plus de familles, les deux parents travaillent à l'extérieur, donc les proportions-là sont plus de 70 % maintenant. Ces taux-là étaient de l'ordre de 30 % il y a 30 ans. Donc, ça vient changer complètement la façon que l'eau est générée durant une journée. Ils sont beaucoup plus concentrés le matin, quand les gens, avant qu'ils partent la résidence, et au retour, en fin de journée et la soirée. Donc, ce qui fait que la même quantité d'eau est générée, mais de beaucoup plus courte période, et donc on doit adapter les systèmes de traitement en conséquence.
Est-ce à dire que actuellement, les systèmes de traitement ne sont pas adaptés à cette nouvelle réalité-là?
Je dirais pas tous les systèmes de traitement sont adaptés. Et d'ailleurs, dans ma présentation, comme vous avez vu, il y a des études aux États-Unis qui ont démontré que certains systèmes étaient... c'est une étude en West Virginia où il y avait jusqu'à 30 % des systèmes qui étaient en défaut, malgré qu'ils avaient été certifiés, etc.
Roger Lacasse, donc de Premier Tech Environnement. Chantal, il s'interroge quant au bon fonctionnement de certaines installations septiques autonome, comme on dit.
Une situation qui peut bien sûr avoir un impact sur l'environnement en rejetant par exemple des eaux usées maltraitées dans les cours d'eau, ce qui peut aggraver le célèbre problème de prolifération de micro-organismes comme par exemple les algues.
Oui, bien sûr. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Chantal, que ce salon Americana, donc ça met les technologies environnementales à l'honneur, évidemment. Il faut dire que plusieurs des participants en profitent pour promouvoir, même peut-être vendre, leur technologie à de nouveaux clients.
Évidemment, parce qu'en plus des conférences, l'événement amène également son lot d'exposants, plus de 400 cette année, sauf que la technologie ne règle pas tous les maux. Il faut également savoir comment la déployer sur le terrain. C'est en substance que sont venus raconter plusieurs conférenciers, à commencer par Jack Macy, qui est coordonnateur de la politique zéro déchet à San Francisco, la grande région de San Francisco qui est au moins deux fois plus densément peuplée que l'île de Montréal. Il y a là-bas, imaginez Yannick, 800 000 habitants, répartis sur l'équivalent du quart de l'île de Montréal. Ouais. Et en 15 ans, Jack Macy a réussi un tour de force puisqu'à San Francisco, aujourd'hui, seulement 30 % de ce qui est jeté aboutit au site d'enfouissement. Le reste, c'est-à-dire 70 % est recyclé ou composté. Et ce n'est qu'un début puisqu'on s'est fixé là-bas un objectif ambitieux de zéro déchet en 2020. Et en plus, imaginez, on a tracé une croix définitive sur des technologies comme l'incinération, même pour produire de l'électricité.
Ouais.
Alors, pour vous donner une base de comparaison, sachez qu'à Montréal, on met en valeur moins de 40 % de ce qui est jeté contre 70 % à San Francisco et qu'on parle régulièrement de construire une usine de gazéification pour brûler les déchets. J'ai donc demandé à Jack Macy, un ingénieur de formation, de nous donner les secrets de sa recette.
Eh bien, nous avons établi un code de couleur. On fournit des bacs verts pour les matières compostables et bleus pour le recyclage. On utilise beaucoup d'images et de photos pour éduquer la population. Et tous doivent payer un montant selon la quantité de déchets qu'ils envoient au site d'enfouissement. Donc, s'ils recyclent et compostent, ils économisent. On fait beaucoup d'éducation, de sensibilisation. On fait même du porte-à-porte pour parler du programme. On contrôle aussi la qualité de ce qui va dans les bacs. On peut même facturer un supplément si les gens ne trient pas comme il faut. On travaille beaucoup avec les commerces. On va les aider pour mettre en place le programme. On leur offre de la formation dans différentes langues. C'est beaucoup d'efforts, de créativité. Il faut offrir le service à tous et que ce soit pratique et facile. L'élément clé, c'est qu'il faut que ça soit aussi simple pour les participants de recycler et de composter que de mettre leurs déchets à la poubelle. Donc, on a regroupé tous les bacs. C'est facile et le service est fréquent et ça vaut vraiment la peine. De toute façon, les gens doivent déjà manipuler toutes ces matières. Tout ce qu'on leur demande, c'est de le mettre à la bonne place. Si vous arrivez à rendre ça simple, ça peut se faire.
Jacques Messi de San Francisco. Donc, lui, il trouve des débouchés pour ces matières recyclées. Ici, les entrepôts débordent, Chantal.
Il me disait, quand je lui ai posé la question, qu'il a noté évidemment une baisse de valeur qui chiffre à 80-90% à cause de la crise. Mais encore là, une situation qui n'est pas sans issue, selon lui. Il suffirait, me disait-il, par exemple, d'innover dans les pratiques. On pourrait avoir des incitatifs financiers pour amener les industries à utiliser des matières recyclées pour fabriquer leurs produits. On pourrait aussi taxer davantage les matières premières vierges. Une avenue à considérer alors qu'on est à jeter les bases d'une économie plus verte avec ce New Deal qui est présentement en train d'être développé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Bref, la limite, ce n'est pas la technologie, c'est l'imagination et surtout le courage politique de prendre des décisions parfois impopulaires. C'est ce que me disait cette semaine Jean-Marie Vautier, ingénieur en chef et directeur des relations internationales de la région Wallonne en Belgique, où il est responsable de l'environnement et du développement durable. Il est à la tête d'une délégation de 15 entreprises de sa région. C'est un habitué du Salon Americana.
On peut déjà dire qu'à l'heure actuelle, en matière technologique pour résoudre les défis environnementaux, les technologies, on les a. Ce qu'il manque, c'est les moyens financiers et la décision politique pour les lancer. Nous sommes dans un monde où les hommes politiques sont extrêmement soucieux de tout leur environnement, puisque le mot est à l'air monde, et il est extrêmement pour eux difficile de prendre des décisions à long terme. Et les deux gros défis, donc, c'est les moyens financiers, donc mobiliser les moyens financiers. Mais ça, je suis optimiste parce que ces moyens financiers vont faire effet boule de neige et créer de nouvelles activités. Donc, ce sera soutenable en matière économique. Et alors, le grand défi, c'est la décision politique. C'est extrêmement difficile pour les hommes politiques en place un peu partout dans le monde de prendre des décisions qui sont à court terme impopulaires pour avoir des effets à long terme. Vous rendez compte, un homme politique qui doit prendre des décisions qui vont devoir changer la vie, le confort des citoyens et qui n'auront leur effet sur la planète que dans 50 ans.
L'ingénieur Jean-Marie Vautier est responsable de l'environnement et du développement durable pour la région Wallonne en Belgique.
Et dans sa délégation belge cette semaine à Americana, il y avait un homme qui s'appelle Robert Grabsan. Yannick, qui est ingénieur civil, architecte et assistant de recherche à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles. Robert Grabsan, qui n'aime pas parler de développement durable, mais plutôt d'urbanisme durable. Il définit pour nous ce dont il s'agit.
C'est un urbanisme du bon sens, tout simplement, je pense. Je ne pense pas que, par exemple, climatiser à outrance des maisons avec les moyens technologiques qu'on a soit une bonne solution. Donc, en fait, on est dans une époque où on n'a jamais autant maîtrisé les techniques et pourtant, on a beaucoup de mal encore aujourd'hui à les mettre ensemble. Et peut-être que le travail de l'urbaniste, c'est essayer de comprendre les spécificités des uns et des autres de mananière très pointue et puis après d'assembler les choses pour que cela tienne en un ensemble cohérent. C'est peut-être ça.
Faire une passerelle entre l'aménagement, la planification de l'aménagement et ce qu'on fait des technologies qu'on utilise parfois trop à la pièce.
Exactement. Donc c'est un peu l'objet que l'on peut vendre un peu partout et aussi les spécificités liées au lieu. Donc par exemple, Québec n'est pas Montréal, Montréal n'est pas une ville européenne, etc. Et pourtant, c'est véritablement l'échelle du territoire, de l'urbaniste jusqu'à l'engineering, lié au développement innovant que l'on peut retrouver, par exemple, à Americana.
Avez-vous l'impression que l'Amérique du Nord est un peu à la traîne à cet égard-là, en termes d'urbanisme durable, par rapport à ce qui se fait, par exemple, dans le nord de l'Europe?
À la traîne, je pense qu'il y a beaucoup d'excès, en tout cas, liés au développement du XXe siècle. Donc, le tout à la route, par exemple, une dévalorisation, par exemple, du chemin de fer, aussi un éclatement des centres et tout est éparpillé. Bon, alors la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui est déjà là, puisqu'en 2050, 80% du patrimoine bâti restera le même. Et donc, il s'agit de prendre des grandes mesures, par exemple, d'isolation des bâtiments, ceux qui sont déjà existants, de redensification des centres urbains. Par exemple, on voit Montréal où, par exemple, il y a un demi-siècle ou un siècle, tout était assez dense. Et au fur et à mesure, la ville s'est dédensifiée, ce qui a donné un peu une typologie de parking. Et donc, du coup, le fait que tout soit accessible en voiture facilement, ça ne favorise pas habiter finalement tout près, puisqu'il y a des nuisances qui sont liées. Donc, il faut apporter la qualité en ville que l'on ne trouve pas ailleurs. Mais en tout cas, en Belgique, il y a un problème d'espace qui n'existe pas au Canada. Et en Belgique, il y a des problèmes d'énergie qui n'existent pas au Canada parce qu'ils sont liés aux barrages. Donc, chaque ville devra répondre aux trois enjeux majeurs qui sont l'énergie, le social et la mobilité. Ce sont les trois enjeux majeurs du 21e siècle.
On est ici dans un salon de technologies environnementales. Avez-vous l'impression que votre point de vue est entendu par des ingénieurs?
Étant moi-même hybride, ingénieur et architecte, je comprends très bien la schizophrénie qui peut s'opérer entre ces deux mondes-là. Pourtant, je pense effectivement qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, l'un et l'autre, et ça va s'intensifier, seront indissociables. Étant donné qu'un peut donner des quantités et des dimensionnements, l'autre peut apporter de la qualité des choses qui sont difficilement mesurables. Et donc, effectivement, l'urbanisme durable, par exemple, Americana, existe que depuis l'édition précédente. Et donc, effectivement, on se rend compte que l'accumulation de ces objets performants, ne trouve pas finalement leur place, puisqu'il s'agit maintenant de les considérer ensemble par des généralistes. C'est-à-dire qu'à Americana, il y a beaucoup de spécialistes. Et peut-être que le généraliste est l'espèce d'architecte ou de personne qui essaye de mettre les choses ensemble et qui intègre de manière harmonieuse pour que chacun puisse trouver finalement son compte, aussi bien l'économiste que les personnes qui habitent, etc. etc. Donc ça, c'est certain.
Robert Grapsan est ingénieur civil architecte et assistant de recherche à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve.
Il faut dire, Yannick, que l'urbanisme durable, ce n'est pas qu'un concept. On a d'ailleurs présenté des cas bien concrets cette semaine à Americana, comme le quartier de Vauban à Fribourg en Allemagne ou la ville de Portland en Oregon, qui sont vus comme de véritables sources d'inspiration en la matière.
Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
L'auteur de la semaine maintenant pour terminer cette émission, il s'appelle Gérard Lambert, il est journaliste scientifique, médecin, membre associé du Centre Cavaillès de recherche sur l'histoire des sciences à l'École normale supérieure de Paris, Paris où il est dans notre studio. Bonjour Monsieur Lambert.
Bonjour.
Et vous êtes donc dans notre studio pour parler avec nous de votre livre qui a un bien beau titre, hein, Vérole, cancer et compagnie, la société des maladies, c'est publié aux éditions du Seuil. Je dirais, Gérard Lambert, que c'est un livre à la fois sur l'histoire des maladies et aussi sur l'histoire de la maladie. Est-ce que je vous ai bien lu ?
Vous m'avez parfaitement lu, parce que autant il y a beaucoup d'exemples, comme vous l'avez vu, de maladies différentes et de leur histoire dans le temps, mais vous avez vu aussi que ce livre commence par l'histoire du concept de maladie lui-même.
Exactement,
c'est-à-dire,
oui,
qu'est-ce qu'on a appelé maladie depuis l'Antiquité, puisque c'est là où commence notre histoire. Qu'est-ce qu'on a appelé maladie et qu'est-ce qu'on peut dire de ce concept?
Et il faut dire que la maladie, c'est une histoire aussi vieille que l'humanité. On va la commencer un petit peu plus loin, parce qu'on n'a quand même pas un temps immense devant nous, mais on va commencer au 19e siècle, si vous voulez bien, le siècle où apparaît la médecine, bon, appelons-la la médecine scientifique. Qu'est-ce qui fait qu'au 19e siècle, la médecine prend ce tournant-là, la médecine scientifique?
Alors, un ensemble de choses, hein, bien sûr, mais vous avez raison, le 19e siècle est un tournant absolument fondamental. Alors d'abord, au début du siècle, il y a ce qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est-à-dire,
ouais,
qu'on va ouvrir les cadavres, on va aller voir dans les morts qu'est-ce qui peut bien expliquer leur mort. Ça nous paraît quelque chose de logique et d'évident.
Oui, oui.
À cette époque-là, ce n'est pas du tout évident. Donc, on va pour la première fois essayer de localiser des lésions sur les organes et de mettre en rapport ces lésions avec des symptômes qu'on avait observés. Et puis, à la fin du siècle, pour aller un petit peu rapidement, donc plutôt dans la deuxième moitié du siècle cette fois-ci, il va y avoir, bien sûr, la médecine expérimentale de Claude Bernard,
oui, hein,
qui est vraiment quelque chose de très important. C'est de la médecine qui devient scientifique, c'est de la médecine qu'on peut tester dans un laboratoire, c'est de la médecine qu'on peut expérimenter sur des animaux. Et puis enfin, bien sûr, la révolution pasteurienne.
Hein. Oui.
Alors, on parle de nous, les Français, on parle toujours de Pasteur, mais bien sûr, il y a aussi Koch
en Allemagne
oui, qui a fait un travail absolument remarquable aussi.
Mais la découverte des microbes, hein, c'est ça.
C'est ça. Alors ça, c'est assez fondamental. Parce que pour la première fois dans l'histoire, on a une cause spécifique d'une maladie. Alors une cause spécifique, ça veut dire une cause nécessaire. Ce n'est pas forcément la seule cause possible. D'ailleurs, on le voit à travers l'exemple de la tuberculose. Vous savez qu'aujourd'hui, on estime que dans une population occidentale bien nourrie, il va y avoir qu'entre 5 à 10% des gens qui rencontrent le bacille de la tuberculose qui vont faire une maladie. Donc vous voyez bien qu'il y a nécessairement d'autres causes associées qui interviennent dans cette histoire. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'est la première fois qu'on a une cause scientifique clair et précis. Et
avec la révolution donc pasteurienne, mais les microbes, etc. Il y a aussi un médecin allemand que vous citez et qui est important, c'est Virchow.
Rudolf Virchow.
Virchow, ça c'est aussi important parce que lui, c'est très curieux, il est aux deux extrêmes. Hein. Il regarde les cellules, mais il regarde la société. Il fait de la médecine sociale d'une certaine façon. C'est un homme qui voit large.
C'est un homme qui voit large, c'est un homme qui voit du microscopique au macroscopique. Donc Rudolf Virchow, en effet, comme vous l'avez signalé, est l'auteur de ce qu'on pourrait appeler une théorie aboutie. Une théorie cellulaire aboutie, parce que les cellules, elles sont observées plus de 250 ans auparavant pour la première fois, mais pour avoir ce qu'on appelle une théorie cellulaire, c'est-à-dire que pour comprendre que tous les êtres vivants sont faits de cellules et que cette cellule est une unité fonctionnelle de tous les organismes, il faut beaucoup de temps et de comprendre aussi comment elle se divise. Mais Virchow, qui va dire donc il faut aller regarder les pathologies au niveau de la cellule, on les a regardées sur les organes, maintenant on va aller les regarder au niveau de la cellule, s'intéresse en effet, comme vous l'avez dit, aux côtés social et à ce qu'on pourrait dire vraiment un corps social. Et il considérait donc que les cellules étaient à la fois indépendantes, mais qu'elles œuvraient pour le bien commun et que donc de ce point de vue-là, on pourrait le comparer à la société et qu'il était donc important de prendre soin de ces cellules.
Et si on continue l'histoire, maintenant on va arriver au XXe siècle, le grand changement, c'est qu'on va aller encore plus loin que la cellule, justement. On va aller aux gènes, on va regarder la maladie, on va regarder les causes génétiques, les causes moléculaires de la maladie aussi.
Voilà, c'est ce qu'on a appelé la maladie moléculaire. La première maladie moléculaire qui a été décrite, c'est une anémie, la thalassémie, qui est due à une maladie d'origine génétique, en effet, l'hémoglobine. Aujourd'hui, on a cette conception moléculaire de la maladie, peut-être un peu trop, c'est parfois ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est-à-dire il y a un niveau moléculaire de la maladie, mais peut-être que c'est un message qu'on ne voit pas assez, mais il y a un message qui traverse tout ce livre, c'est de dire... Très bien, on apprend beaucoup de choses avec la biologie moléculaire, avec toutes les connaissances, avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui. Simplement, ouvrez une carte de géographie, regardez un peu l'histoire et vous verrez que les maladies, elles sont intimement corrélées à l'industrie des hommes.
Alors, vous dites dans ce premier chapitre, pour en terminer avec cette histoire de la maladie, hein, qu'en fait, les maladies, vous dites, les maladies, ça n'existe pas, enfin, c'est pas une boutade. Vous voulez dire que les maladies sont des constructions quand même de l'esprit humain qui les regarde, les analyse, les caractérise. Mais vous voulez pas dire quand même que le cancer et la vérole sont des maladies imaginaires, non ?
Non, bien sûr. J'ai laissé une ambiguïté dans le titre de ce chapitre pour qu'on se pose la question, mais bien sûr que ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire, si vous voulez, que les hommes sont tellement... les individus sont tellement variants les uns des autres, ce qui est d'ailleurs la source de l'évolution des espèces. On est dans l'année Darwin. S'il n'y avait pas des variations au niveau de chaque individu, il n'y aurait pas d'évolution des espèces. Les espèces seraient fixées. On sait que ce n'est pas le cas. Donc, les maladies, c'est la nécessité de regrouper des symptômes qu'on voit se répéter chez différentes personnes sous une même case nosologique, hein, c'est la manière dont on appelle la classification en médecine, pour permettre de traiter et de prendre en charge les maladies. Mais tous les médecins savent bien que deux malades ne sont jamais pareils. Tous les médecins savent bien que les patients qu'ils voient tous les jours ne présentent pas l'ensemble des symptômes qui sont décrits dans les livres. Et on sait aujourd'hui, au fur et à mesure où nos connaissances, si vous voulez, sont de plus en plus grandes, et on voit bien aujourd'hui que à chaque fois, on a des sous-types différents. Et que si on poussait vraiment à l'extrême, on aurait des individus, plus des sous-types, mais vraiment des individus.
Des individus. Alors on va sauter.
C'est dans ce sens-là que je dis ça.
Alors on va sauter, Gérard Lambert, si vous le voulez bien, à l'histoire des maladies, cette autre partie de votre livre. Donc on va commencer quelques mots avec une maladie fulgurante quand elle apparaît en Europe, fin du 15e, vers 1493 à peu près, 1495. La vérole, en fait la syphilis, hein, pour l'appeler comme ça, qui apparaît de façon terrifiante. C'est absolument hallucinant cette histoire de l'apparition de la syphilis en Europe.
Alors en effet, la syphilis apparaît peu de temps après le voyage de Christophe Colomb, puisqu'il va y avoir tout un débat qui va commencer pratiquement immédiatement et qui dure encore aujourd'hui sur les origines de la syphilis, savoir si c'est une origine américaine ou pas. Et les premières descriptions qui sont faites au cours de l'équipée du roi Charles VII en Italie...
Jusqu'à
Naples, une équipée plus glorieuse hein, d'ailleurs. Les premières descriptions qui sont faites d'une maladie, comme vous dites, absolument terrible, avec des douleurs osseuses incroyables, des membres qui quasiment se nécrose, des nez qui tombent, des choses comme ça, enfin vraiment une description.
L'horreur, ouais.
L'horreur complète. Et puis quelque chose de très aigu où, comme vous l'avez souligné justement, une description dont on n'a plus du tout l'habitude aujourd'hui. On ne voit jamais ce type de situation clinique. Et tous les médecins de l'époque vont le décrire, qui va changer au bout de quelques années, en quelques décennies, assez vite. Hein.
Qui va s'atténuer au fond, d'une certaine
façon. Exactement, qui va s'atténuer. Elle s'atténue à un tel point que Ambroise Paré croit qu'elle va disparaître.
C'est incroyable. Et donc, c'est une maladie parce que ça va durer pendant... Elle va être encore la grande maladie du 19e, de la première moitié du 20e, la syphilis. C'est une maladie exemplaire pour l'historien de la médecine.
Une maladie extraordinaire, bien sûr, et qui est source de beaucoup d'enseignements. Enseignements, comme je vous l'ai dit, sur l'origine, dont on parle encore aujourd'hui. On développe des outils très modernes, comme la phylogénétique, c'est-à-dire l'analyse de la séquence d'ADN des différentes bactéries qu'on retrouve sur différents continents, pour essayer de voir si on peut cerner cette origine. Un débat sur les origines qui montre qu'on peut, aujourd'hui faire l'histoire des maladies.
Alors on ne sait toujours pas donc, si la syphilis est venue d'Amérique vers l'Europe, mais enfin c'est la thèse quand même dominante, en un mot.
C'est la thèse dominante, c'est celle à laquelle personnellement je suis plus sensible, mais c'est vrai que vous savez, en science, parfois on peut avoir
de bonnes surprises,
mais souvent on a des convictions et il faut rester.
Et si on parle, d'origine, ben aussi il y a la grande question, c'est la grande maladie infectieuse de la fin du XXe siècle et d'aujourd'hui encore, c'est le sida. Là aussi, il y a une grande question, d'où vient le sida, on se l'est posé. Il y a un personnage dans votre livre, il faut en dire deux mots, c'est Mirko Garmek, qui a été un historien des sciences, qui a publié, un historien de la médecine, surtout Histoire du sida, très tôt dans l'histoire de l'épidémie, en 1990, publie son livre, et c'est un livre qui reste important.
Alors, c'est un livre, pour moi, fondamental sur le sida et l'émergence de cette épidémie. Je vais peut-être dire deux mots, comme vous dites, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous aurez remarqué quand même que ce livre est dédié à Mirko Garmek.
Oui, exactement.
J'ai beaucoup travaillé sur ses archives. C'est un historien de la médecine d'origine croate qui a surtout exercé ses talents en France, mais qui a commencé en Croatie, qui enseignait à la Sorbonne et qui a laissé une œuvre absolument protéiforme et prolifique, dans laquelle il y a plus de 1000 entrées dans sa référence. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses à aller voir. Et en effet, dans ce livre sur le sida, où pour la première fois il transgresse un peu son rôle d'historien puisqu'il écrit l'histoire d'une épidémie
en train de se faire. Oui.
Et donc c'est étonnant de voir à quel point l'historien peut nous amener une autre vision et peut nous amener sur quelque chose sur lequel à cette époque-là il y a nombre de savants qui sont en train de travailler. D'ailleurs, pour la petite histoire, il avait remarqué, c'était assez drôle, il disait c'est la première épidémie dans l'histoire où au début on a plus de scientifiques qui travaillent dessus que de malades. C'était quand même bon. Et il propose pour l'origine de ce sida, une thèse qui n'est pas du tout farfelue et qui est tout à fait argumentée, que je détaille dans le livre et que j'essaye de réanalyser a posteriori avec les études qui ont été produites depuis. Et en gros, sa thèse, c'est de dire ce virus, il est là depuis très longtemps en Afrique. Il n'avait pas émergé pour un certain nombre de raisons qui est, si vous voulez, une sorte de raisonnement darwinien, parce qu'il est légitime d'avoir sur les maladies infectieuses un raisonnement darwinien, et ça me paraît tout à fait fondamental. Et donc, il y a l'homme a créé des conditions à un moment pour que cette épidémie se propage.
Oui, vous dites que ce n'est pas le virus qui a changé, mais ce sont les comportements humains, au fond, la société, la sociologie, au fond, qui a changé.
Voilà, alors on connaît des... Je tempère un peu, parce que le virus du sida est un virus qui change beaucoup.
Oui, quand même, oui, bien sûr.
C'est un de ses armes, une de ses armes. Mais on sait dans d'autres, par exemple la légionellose, on sait que si on a des cas de légionellose aujourd'hui, c'est juste parce qu'on a de la ventilation et de l'air conditionné, mais que la bactérie, elle n'a pas changé du tout et qu'elle était toujours là et qu'elle ne nous embêtait pas du tout. C'est simplement de nouvelles conditions qu'on lui a offertes.
Mais dans le cas du virus du sida, donc, le virus a changé parce qu'il y a eu des conditions qui ont été propices au fait qu'il devienne très virulent.
Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez un virus qui change en permanence, la question devient de savoir pourquoi il y a des souches qui ne sont pas virulentes à un moment et pourquoi une souche très virulente peut être sélectionnée à un moment et qu'est-ce qui explique ça? C'est là où intervient une sorte de raisonnement darwinien dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, bien sûr, il y a toutes les conditions dont dont on a beaucoup parlé, hein, les voyages, l'exode rural, toutes les conditions de déstabilisation d'un équilibre antérieur, l'utilisation des injections. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Mirko Germek dépeint dans ce cas-là un contexte, un ensemble de choses, et pas seulement, comme on le fait dans la rumeur, souvent, comme les rumeurs qui circulent, une seule chose qui aurait déclenché une catastrophe mondiale.
Il n'y a pas un événement fondateur.
Il n'y a pas un événement, c'est une conjonction d'événements. Il dit lui-même d'ailleurs de petits événements qui passeraient inaperçus.
En un mot, ce qui est troublant au fond, c'est que dans la vision de Mirko Germek, c'est que au fond, une maladie en remplace une autre. La variole avait disparu, par exemple, et le sida a peut-être pu prendre la place aussi qui était laissée libre par ça. Ça veut dire qu'on est toujours condamné, en conclusion, à avoir de nouvelles épidémies, de nouvelles maladies?
Oh, je pense, vous savez, il y a eu une illusion au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
On allait gagner, oui.
La découverte de la pénicilline, etc. Dans les années 50-60, on a commencé à se dire, on en est peut-être sorti de ces maladies infectieuses qui ont été de telles calamités pendant des siècles. On voit bien aujourd'hui avec le sida que ça, c'est des illusions, c'est un mythe, et que les organismes vivants, que ce soit les bactéries ou les autres, s'adaptent en permanence, les bactéries et les virus encore plus rapidement que les espèces supérieures. Et donc, on aura toujours affaire à ces bactéries et à ces virus qui, je vous rappelle, sont tout à fait profitables aussi. Hein.
Oui,
dans notre corps, on
aussi.
A 10 fois plus de bactéries qu'on a de cellules à nous-mêmes, vous imaginez.
C'est ça, ouais. Et donc, c'est finalement ce combat contre les maladies infectieuses en particulier, ça ne finira jamais, en conclusion et en un mot.
Ça ne finira jamais, et il faut apprendre à vivre avec, et il faut apprendre à les maîtriser dans la mesure du possible.
Eh bien, Gérard Lambert, je ne vous demanderai pas donc quelle sera la prochaine plaie de l'humanité souffrante.
Malheureusement, je ne pourrais pas vous le dire encore.
Mais je rappelle...
Peut-être que ça en sera d'autres.
Oui, mais je rappelle en terminant le titre de votre livre, Vérole, cancer et compagnie, la société des maladies, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être venu en studio, Gérard Lambert.
Merci à vous.
Et c'est le moment de recevoir Jacques Languirand. Jacques, ce soir, à Parc Quatre Chemins, vous nous parlez de quoi?
Eh bien, l'autopsie d'un piège, voilà ce que je suggère. C'est-à-dire vouloir faire le bien et faire le mal. Voilà, c'est un des paradoxes de l'idéalisme.
Évidemment, oui.
Au revoir, Yannick.
Et c'est à Parc Quatre Chemins, ce soir, à 20h. Alors c'est ainsi que se termine cette édition des Années-Lumière, une émission signée Dominique Lapointe, avec à la technique aujourd'hui Émilie Bilodeau. Journaliste Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Chantal Srivastava. Au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur Laurent Drissen. Un tout petit rappel à tous ceux et à toutes celles qui participent à la bourse Fernand Seguin, l'heure de la tombée approche à grands pas. Allez, au boulot, au travail, on s'y met. Alors c'est Yannick Villedieu qui vous parle. Passez une bonne semaine à l'écoute de la première chaîne de Radio-Canada et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.